Le journal est présenté par Margot Steve.
Bonsoir à tous. C'est une rencontre historique et hautement symbolique entre deux frères ennemis. Pour la première fois depuis 20 ans et le début de la guerre civile, les présidents de l'Éthiopie et de l'Érythrée se sont rencontrés aujourd'hui. Cela tient presque du miracle. Après 15 jours passés sous terre, bloqués dans une grotte, les premiers enfants ont été secourus en Thaïlande. Les opérations reprendront demain au lever du jour. La France et Emmanuel Macron qui réunit les parlementaires en congrès à Versailles demain. Le président espère remonter dans les sondages qui lui sont en ce moment peu favorables. Après 1500 km de périple, la marche solidaire est arrivée à Londres aujourd'hui. Une dernière étape très symbolique pour cette marche de soutien aux migrants. Et puis le festival d'Avignon et un spectacle de 10 heures hier. Une pièce très osée qui questionne au théâtre la dictature des images. C'était une scène inimaginable il y a encore quelques semaines, une poignée de mains entre les présidents éthiopiens et érythréens qui se sont rencontrés aujourd'hui pour la première fois depuis 20 ans. Nabila Hamel, bonsoir.
Bonsoir.
C'est une tentative de réconciliation historique pour ces deux pays voisins en conflit depuis des années et après une guerre qui a fait 80 000 morts entre 1998 et 2000.
Oui, alors on est au tout début d'une démarche voulue par le nouvel homme fort de l'Éthiopie. Abiy Ahmed avait promis une ouverture et des réformes au plan intérieur. Au plan extérieur, il avait tendu la main à l'Érythrée. Comme preuve de sa bonne volonté, le Premier ministre éthiopien a dans la foulée fait part, il y a quelques semaines, de son intention d'appliquer les accords de paix signés en 2000 et surtout de céder à son voisin le territoire frontalier que l'Éthiopie occupe toujours en dépit d'un jugement international qui lui était défavorable. Alors l'Éthiopie et l'Érythrée se sont fait la guerre, vous le disiez, entre 1998 et 2000. Le conflit frontalier a fait 80 000 morts, sans compter les précédentes hostilités nées en 1993 après la déclaration d'indépendance de l'Érythrée, qui était une ancienne province de l'Éthiopie. Alors ce dimanche, la télévision éthiopienne a montré l'accolade entre les dirigeants des deux pays à l'aéroport d'Asmara en Érythrée, les deux capitales. Iront-elles au-delà des promesses avec un retrait effectif de l'Éthiopie de la zone contestée dont la ville de Badme est le symbole? La rencontre au sommet d'aujourd'hui entre les deux frères ennemis de la Corne de l'Afrique est la première à ce niveau depuis 20 ans. Addis Abeba et Asmara n'ont d'ailleurs pas de relations diplomatiques. Le mois dernier, une délégation érythréenne avait fait toutefois le déplacement en Éthiopie pour voir au plus près ce que proposait effectivement l'Éthiopien Abiy Ahmed en matière de réconciliation. De l'avis de spécialistes de la région, l'Érythrée, l'un des régimes les plus fermés et répressifs au monde, a tout à gagner d'une réconciliation avec son voisin, notamment au plan économique.
Merci Nabila Hamel. C'est l'attaque la plus meurtrière depuis 2 ans en Tunisie. Une opération terroriste a fait 6 morts cet après-midi, tous des membres de la garde nationale. Ils ont été pris dans une embuscade dans le sud-ouest du pays, près de la frontière algérienne. Une mine a explosé, puis les assaillants ont ouvert le feu sur les forces de l'ordre. Des assaillants recherchés en ce moment par les autorités. Un coup dur pour la Tunisie qui tente de relancer son activité touristique. La dernière attaque de cette ampleur dans le pays remonte à mars 2016. Les djihadistes avaient lancé des opérations coordonnées près de la frontière avec la Libye. 13 membres des forces de l'ordre et 7 civils avaient été tués. Une liste longue de plus de 18 000 noms publiée dans un décret-loi en Turquie, ceux de fonctionnaires limogés aujourd'hui par le gouvernement. Une purge massive qui survient 2 ans après le coup d'État de 2016 et alors que le président Erdogan doit prêter serment demain pour un nouveau mandat avec des pouvoirs très élargis. Parmi les fonctionnaires limogés, beaucoup de membres des forces de police mais aussi des universitaires. 12 associations, 3 journaux et une chaîne de télévision ont également été fermées. Au Brésil, l'ex-président Lula pourrait sortir de prison aujourd'hui. Incarcéré pour corruption depuis début avril, une cour d'appel estime ce dimanche, à la surprise générale, que sa libération doit survenir dans les prochaines heures. Cela faisait 15 jours qu'il n'avait pas vu la lumière du jour, coincé dans une grotte en Thaïlande. La moitié des enfants pris au piège ont été évacués cet après-midi. Il en reste encore 6, ainsi que l'entraîneur de football avec qui ils étaient. Les opérations de secours sont maintenant interrompues à cause de la nuit. Elles doivent reprendre demain dans des conditions qui s'annoncent moins compliquées que prévu. Sur place, Mathieu Mondoloni.
L'opération lancée ce matin va finalement beaucoup plus vite que prévu. Selon nos informations, 6 garçons ont été secourus aujourd'hui. 2 sont déjà à l'hôpital. Nous avons vu passer tout à l'heure près du centre de presse où nous trouvons 2 ambulances qui les ont emmenés dans une école non loin de là. Ils ont été pris en charge par un hélicoptère et évacués à l'hôpital de Chiang Rai. C'est une ville qui est à environ 1 heure de route, mais évidemment beaucoup plus proche par les airs. 2 autres garçons sont sortis de la grotte et vont être pris en charge par les médecins qui se situent sur le premier centre de secours juste à la sortie. Ils vont être eux aussi examinés rapidement pour s'assurer qu'ils sont en bonne santé et à leur tour être évacués vers l'hôpital de Chiang Rai. 2 enfin sont tout proches de la sortie. Ils sont dans ce qu'on appelle la troisième chambre qui est encore sous terre, mais le plus dur est désormais fait pour eux. Ils vont pouvoir sortir à pied. Selon un membre des secours à qui nous avons pu parler, l'opération débutée à 10h devrait donc s'arrêter pour ce soir. Il fait désormais nuit et la journée a été très dure, notamment pour les secouristes. Elle devrait reprendre ses opérations dès demain matin pour évacuer les 6 derniers enfants et leur entraîneur.
Les recherches reprendront vers 2h30 du matin, heure française. Au Japon, les secouristes, eux, sont toujours à pied d'œuvre pour tenter d'aider les sinistrés pris au piège. Des pluies exceptionnelles s'abattent sur le pays depuis plusieurs jours. Selon le dernier bilan officiel et toujours provisoire, 57 personnes sont mortes, emportées par les crues, les glissements de terrain et les inondations. Des méthodes de gangsters. La Corée du Nord n'a pas de mots assez durs, semble-t-il, pour dénoncer l'attitude des États-Unis. Hier, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo était à Pyongyang pour tenter de concrétiser la promesse de dénucléarisation de la péninsule coréenne. Lui est sorti de cet entretien satisfait, pas la Corée du Nord donc. Et la réplique américaine ne s'est pas fait attendre. Mike Pompeo annonce que les sanctions seront maintenues jusqu'à une dénucléarisation totale et complète de la Corée du Nord. C'est un accord qui n'aura pas fait long feu. Les raids du régime syrien sur la région de Deraa ont repris aujourd'hui, malgré le cessez-le-feu annoncé vendredi soir entre le gouvernement de Bachar el-Assad et les rebelles présents dans la zone. Au moins 4 personnes, des civils, ont été tuées. Les raids menés dans cette région ont forcé 325 000 personnes à quitter leur maison. C'est décidément un congrès qui est loin de rassembler. Emmanuel Macron réunit les parlementaires à Versailles demain, comme il avait promis de le faire chaque année pour défendre sa politique. Un rendez-vous boycotté à droite comme à gauche par l'opposition et un président boudé par les Français. Selon un sondage Odoxa pour France Info paru jeudi, seul un tiers des sondés estime son action juste et efficace. Alors, est-ce que ce discours devant le congrès suffira pour remonter dans l'estime des Français? Rien n'est moins sûr, explique Olivier Roucan, il est politologue et constitutionnaliste.
Faire un discours très symbolique devant l'ensemble des parlementaires ne va pas lui permettre de gagner en proximité avec les Français. Or, c'est ce point qui, de plus en plus, pose un vrai problème à ce président. Disons que pour le premier exercice, ça pouvait s'entendre et ça correspondait peut-être au contexte. Un an plus tard, on pourrait presque dire que c'est assez anachronique. Dans tous les cas, ça correspond pas du tout à la séquence où on attend plus du président, semble-t-il, si l'on en croit les sondages et si l'on en croit, encore une fois, les remontées. On entend plus le président sur le terrain du social, de la proximité. Et là, par ce rendez-vous très solennel et très symbolique, on peut penser que en termes de communication, ça ne va pas forcément aider le président.
Comment analyser alors le fait qu'il tienne à ce moment tous les ans? Quel peut être l'intérêt pour Emmanuel Macron?
L'intérêt, c'est d'en faire un moment de communication solennel, symbolique et très présidentiel, un peu comme le discours du président des États-Unis à l'État de l'Union. Simplement, le problème, c'est que nous ne sommes pas dans un régime à l'américaine. Nous sommes sous la Ve République et il est vrai que cet exercice, dans tous les cas, la façon dont il l'envisage, est un peu, si vous voulez, étonnante, curieuse. C'est un précédent parce que l'utilisation par les présidents en France du droit de message par le passé, se faisait surtout en temps de crise ou de forte incertitude. Et l'idée d'en faire un rituel annuel, c'est assez nouveau.
On peut parler de stratégie de communication politique, clairement, selon vous?
C'est ça, une stratégie de communication politique qui conforte, s'il le fallait encore, sa stature de président jupitérien, dans tous les cas, la super présidentielle et l'aspect assez vertical dans l'exercice du pouvoir. Puisque, il faut se le rappeler, hein, une fois que le discours est fait, le président s'en va. Il n'entend donc pas la réponse des parlementaires et ces derniers n'ont pas du tout à se prononcer sur le discours, il n'y a pas de vote.
Olivier Roucan, politologue et constitutionnaliste, il était interrogé par Maïwenn Bordron. Un congrès qui sera boycotté aussi par la France insoumise. Son leader Jean-Luc Mélenchon annonce aujourd'hui qu'il va organiser demain une manifestation en ligne pendant le congrès. Les internautes sont invités à poster des messages sur Twitter avec le mot-clé Macron monarque pour protester, dit Jean-Luc Mélenchon, contre la politique autoritaire d'Emmanuel Macron. Et c'est d'ailleurs en substance en ces mots que 78 députés Les Républicains dénoncent aujourd'hui dans une tribune publiée dans le journal du dimanche la réforme de la Constitution portée par Emmanuel Macron. Une réforme débattue à partir de mardi à l'Assemblée et considérée par les signataires de la tribune comme une démolition du travail parlementaire. Après l'agression d'un couple de policiers en Seine-et-Marne mercredi, les deux suspects ont été incarcérés aujourd'hui. Deux frères interpellés vendredi pour l'un, hier pour l'autre. Ils vont donc attendre en prison leur procès prévu mercredi. Les deux victimes qui n'étaient pas en service au moment des faits avaient été rouées de coups devant leur petite fille de 3 ans. C'est un coup dur pour le parti de Marine Le Pen. Les juges d'instruction financière ont décidé de saisir 2 millions d'euros de subventions qui devaient être versées au Rassemblement national. Une décision prise dans le cadre de l'affaire des assistants présumés fictifs d'eurodéputés du parti. Pour Marine Le Pen qui réagit cet après-midi sur Twitter, il s'agit là d'une peine de mort à titre conservatoire pour son parti. Bruno Le Maire lui accuse les États-Unis de vouloir diviser la France et l'Allemagne. Invité des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, le ministre de l'économie appelle l'Europe à faire bloc face à une menace de guerre commerciale avec les États-Unis. Dans l'éventualité de nouvelles hausses des taxes douanières, pas Donald Trump, l'Union européenne devra se montrer unie, insiste Bruno Le Maire. Donald Trump qui menace notamment d'augmenter les taxes sur l'importation des voitures européennes. Après 2 mois et demi de périple, la marche solidaire en soutien aux migrants est arrivée à Londres ce midi. Plusieurs centaines de bénévoles, de citoyens et de migrants étaient partis le 30 avril dernier de Vintimille à la frontière franco-italienne pour rejoindre Calais puis l'Angleterre. À Londres, Marina Daras.
Après une dernière halte à Calais, la marche solidaire a traversé la Manche et a fait son dernier arrêt ce midi à Hyde Park. Les marcheurs ont été accueillis par des associations locales qui se battent pour les droits des réfugiés. Organisé par l'association calaisienne L'Auberge des Migrants, le cortège a reçu tout au long de son périple le soutien de plusieurs associations locales, mais aussi de particuliers et de migrants eux-mêmes qui souhaitent sensibiliser les Français. La marche citoyenne et solidaire se mobilise pour l'accueil des migrants, contre le délit de solidarité et contre le blocage des frontières franco-italienne et franco-britannique. L'association réclame donc la liberté de circulation et d'établissement en Europe et en France des migrants qui devraient avoir le choix du pays dans lequel ils veulent s'établir et demander protection. Et après 1500 km et une soixantaine d'étapes à travers la France, la marche vient finir sa course à Londres, ville symbolique car souvent synonyme de destination finale pour beaucoup de migrants, mais qui reste très difficile à atteindre. Plus d'une vingtaine de personnes participant à l'événement ont d'ailleurs été retenues par les autorités au moment de passer la frontière. Ils ont été emmenés au centre de rétention de Coquel et certains y sont toujours.
À Londres, Marina Daras. On part maintenant au Festival d'Avignon avec un spectacle Fleuve, l'adaptation par Julien Gosselin de 3 romans de l'écrivain Don DeLillo. Une pièce de 10 heures intitulée Joueur, Mao II, les noms, et qui, Joël Gaillot, n'épargne pas le spectateur.
Julien Gosselin dit vouloir créer des chocs esthétiques pour sortir le spectateur de sa zone de confort. La plupart du temps, cet artiste doué, radical, fracassant, survolté, inspiré, parvient sans problème à ses fins. Pourtant, il semble cette fois avoir raté sa cible. Pourquoi ? Sans doute parce que le terrorisme qui sous-tend l'œuvre de Don DeLillo et dont on pensait qu'il serait le sujet premier du spectacle est bien au cœur de la représentation, mais pas du tout comme on le supposait. Certes, il est question de luttes armées et de rébellions clandestines, il est question du terrorisme politique comme d'une nébuleuse, incertaine, dont on ne connaîtrait ni les tenants ni les aboutissants, mais le vrai terrorisme. Celui qu'interroge vraiment le metteur en scène, c'est celui de l'image vidéo qui domine le théâtre au point de le prendre en otage. C'est pourquoi les acteurs sont filmés, et non seulement filmés, mais invisibles au regard pendant la majeure partie du spectacle. On ne les voit que sur un écran vidéo surdimensionné qui les montre en travelling, en gros plan, égarés dans la foule ou serrés de très près. La forme est magistrale, mais ces flots de vidéos réalisés en live finissent par s'abîmer saturer le regard. Alors, Gosselin fait volte-face. Au bout de 9 heures, il expose un acteur assis seul à sa table et il le fait parler dans un long monologue de plus de 30 minutes. Puis tous les comédiens viennent jouer une transe collective. Elle aussi se prolonge et s'étire. C'est beau, mais un peu tard. On a, de notre côté, suivi trop de pistes qui n'étaient que des leurs. On est fatigué, égaré, perdu et pour tout dire, on n'en peut plus du poids de l'image vidéo. Alors le doute nous gagne et il est colossal, Margot. Et si Julien Gosselin, mine de rien, nous avait bel et bien sorti de notre zone de confort.
Joël Gaillot à Avignon. La météo avec une soirée calme et chaude qui s'annonce, des températures au-dessus des 20 degrés partout en France. Demain, toujours beaucoup de soleil et de chaleur. Au réveil, il fera entre 25 et 31 degrés dans le sud, 25 à Brest, 23 à Strasbourg, 24 à Paris et 23 à Lille.